France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Marie Dagout, née Marie de Flavigny en 1805, repose au Père-Lachaise depuis 1876. Elle est restée célèbre pour l'histoire d'amour passionnée et scandaleuse qu'en femme mariée par ailleurs, elle vécut avec Franz Liszt, dont elle eut 3 enfants. On connaît moins peut-être sa vie de femme de lettres et les ouvrages qu'elle signait du nom de Daniel Stern. Daniel sans E, empruntant ainsi le prénom du dernier des enfants né de sa liaison avec Liszt. Parmi ses ouvrages, on pourrait citer « Essai sur la liberté, considéré comme principe et fin de l'activité humaine » et surtout son « Histoire de la Révolution de 1848 » qu'elle écrivit en témoin et en analyste. En 1981, quelques mois après la parution de Daniel ou le visage secret d'une comtesse romantique Marie Dagout, la biographie qu'elle avait consacrée à cette femme libre et engagée, Dominique de Santy proposait aux auditeurs de France Culture un documentaire qui retraçait ce qu'avait été l'existence de Marie Dagout, vécue au cœur des passions amoureuses, intellectuelles et politiques de son temps. Un récit illustré par les correspondances de Marie Dagout, de Liszt et d'Émile de Girardin et agrémenté de quelques scènes imaginées par Dominique de Santy. Une émission dans laquelle l'historien Maurice Agulon disait pourquoi Marie Dagout, Daniel Stern, était l'un des meilleurs historiographes de la Révolution de 1848. Une républicaine romantique, la comtesse Dagout, un documentaire du vendredi, diffusé la première fois le 23 janvier 1981 sur France Culture.
Une républicaine romantique, la comtesse Dagout, par Dominique de Santy. Avec Martine Sarcey, Jean-Pierre Cassel, Francine Berger, Guy Moigne, Michel Rull, Michel Lituac, Monique Martial. Et la participation de Maurice Agulon, professeur à Paris 1, auteur de La République au village, une ville ouvrière au temps du socialisme utopique, 1848 ou l'apprentissage de la République et les 48 arts. Georges Lubin, écrivain romancier, spécialiste de George Sand. Bernard de Montgolfier, conservateur du musée Carnavalet. Chef opérateur du son, Michel Ristich. Collaboration technique, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet.
Vous ne vous êtes pas trompé, Marie. Nous ne nous sommes pas mentis l'un à l'autre. Si nous n'arrivons pas au bonheur, c'est que peut-être nous valons mieux que cela. Il y a trop d'énergie, trop de passion, trop de feu dans nos entrailles pour nous asseoir bourgeoisement dans le possible.
Vous avez laissé mon âme vide et mon cœur désert, car les joies célestes lui sont interdites. Et les joies de ce monde ne sauraient ni la pénétrer, ni la remplir. Ô Franz, m'avez-vous jamais aimé une minute comme je vous ai aimé?
Ces lettres, c'est les derniers soubresauts de la passion du siècle. Lui, c'est Franz Liszt, le pianiste connu à travers l'Europe entière. Elle, c'est la comtesse Marie Dagout, la sirène blonde, splendide, dont il était tellement élégant dans le noble faubourg Saint-Germain d'être amoureux. Elle l'a rencontré en 1833. Elle avait 27 ans, lui 6 ans de moins. Elle était riche, brillante, admirée, splendide. Et si, comme aujourd'hui, on donnait des prix d'élégance, elle l'aurait sûrement remporté, le premier prix. Ils sont tombés amoureux fou, c'était l'amour foudre. D'abord en secret, ensuite Marie a eu le malheur de perdre une de ses petites filles. Naturellement, elle s'était jurée qu'elle ne reverrait jamais Liszt. Bien entendu, elle l'a revue. Et quand elle le rejoint en Suisse, en 1835, elle porte déjà l'aînée de leurs enfants, Blandine. Des enfants, ils en auront deux autres. Liszt pourra les déclarer parce qu'il était célibataire. La comtesse d'Agoult, liée par un mariage indissoluble, ne leur est rien légalement. En 1839, Liszt étouffe dans cette passion. Il y a eu des prises et reprises, des sanglots, des serments. C'était Dante et Béatrice. Et un jour, il lui a dit ce mot terrible, « Béatrice, les vrais meurent à 18 ans. » Alors Marie a compris, bien sûr. Et en fin 1839, elle revient à Paris seule. Les trois enfants seront élevés par la mère de Liszt, à Paris aussi. Elle n'est plus reçue dans sa famille. Elle est coupée de son milieu natal. Elle ne manque pas d'argent, c'est la seule chose. Mais autrement, elle est seule, il faut repartir à zéro. Et elle dit, elle a 34 ans, elle est splendide, je suis une vieille femme au cœur brisé. Nous sommes dans les quartiers neufs de la chaussée d'Antin. Nous sommes chez les Girardins. Lui, c'est le Napoléon de la presse, Émile de Girardin. Il a fait entrer la publicité dans le journalisme, il a tout révolutionné. Elle, Delphine de Girardin, c'est une ancienne enfant prodige, une poète prodige. Elle est auteure dramatique, elle a une chronique dans la presse, qu'elle signe d'ailleurs d'un pseudo masculin, le vicomte de Launay. Tout le monde lit ça, c'est très amusant, je dois dire, même aujourd'hui. Et c'est le couple chez qui on va. Elle est d'ailleurs restée la mascotte du romantisme et des romantiques depuis qu'elle a assisté à la première de l'Hernani de Victor Hugo, la fameuse bataille d'Hernani, et qu'on l'a acclamée. Ce soir, c'est à la fin de 1839, elle a fait peindre les salons en vert pour que toutes les femmes qui n'ont pas son teint éclatant de blonde paraissent toutes pâles, toutes ternes. La tragédienne Rachel, toute jeune, qui était prévenue, s'est fardée en conséquence. Marie d'Agoult, qui est là, ne craint rien. Elle a un teint qui fait concurrence à celui de Delphine. Il y a tout le monde. Il y a Victor Hugo et sa femme Adèle. Et il y a aussi le critique Sainte-Beuve qui a essayé de consoler Adèle des infidélités du poète et qui en a tiré un roman Volupté. Voilà Lamartine, malgré ses 47 ans, il reste superbe, toutes les femmes le regardent. Voilà le jeune Théophile Gautier qui, lui, ne regarde que Delphine de Girardin. Voilà Eugène Sue et Balzac, les romanciers les mieux payés de Paris, le frétillant Alexandre Dumas. On parle aussi de quelqu'un qui n'est pas là, le consul de France à Civita Vecchia, Henri Bell, qui signe Stendhal et qui vient de terminer tout près d'ici, rue de Richelieu, un gros roman, La Chartreuse de Parme. On parle aussi, mais alors là, beaucoup et avec curiosité, d'un feuilleton de Balzac, Béatrix, ou les amours forcés qu'on dit acclés.
Regardez. C'est drôle, le gros Balzac fait des grâces à la comtesse d'Agoult. Or, c'est elle la victime de ce roman, Béatrix. Et moi, je sais comment. J'ai les clés.
Les tragédiennes jouent toujours les sphinx à la ville. Si tu as les clés, Rachel, ouvre-nous.
Sainte-Beuve, tu es une vraie portière. Dès qu'un ragot traîne, tu le dévores. Eh bien, c'est la Sande, la chère Georges, qui a raconté à Balzac, à sa manière, le séjour de Madame d'Agoult et de Liszt chez elle, à Nohant. À sa manière. C'est-à-dire qu'elle, Georges, est un ange, la comtesse un diable et Liszt un benêt. Qu'est-ce que tu en dis, mon gros Eugène ?
Un romancier rêve que ses personnages deviennent des types. Alors il force les traits, il les grossit. Résultat, la comtesse est une Célimène vieillie, sans cœur et ridicule. Liszt, cet elfe, devient un maestro vulgaire et excédé. Mais elle, Georges, puisqu'elle a fait cadeau du sujet, est une femme de lettres géniale, généreuse et confiante.
Moi, je la vois tous les jours, la comtesse d'Agoult. Elle s'est brisée le cœur contre les pointes du génie de Monsieur Liszt. Elle est désespérée.
C'est vrai qu'une comtesse légitimiste qui revient avec trois bâtards, ça fait scandale.
L'horreur Girardin.
Il va nous haïr.
Émilie tue en duel, mais ne hait point.
Comme on ne parle pas de corps dans la maison d'un pendu, on ne se moque pas des bâtards chez moi. J'en suis un et fier de l'être. Ma mère, qui n'a jamais avoué sa faute à son mari, ne m'a jamais vu. Mon père, le comte Alexandre de Girardin, qui ne m'a jamais reconnu, me reçoit en secret. Si on me surnomme le Napoléon de la presse, c'est peut-être à cause de ma révolte. La comtesse d'Agoult, je la trouve splendide, mais marmoréenne.
6 pouces de neige sur 6 pieds de lave, croyez-moi. Je la vois tous les jours.
Ah, merci de la rapprocher de nous. Elle me plaît de proclamer ces bâtards, comme vous les appelez, au lieu de les cacher. Tiens, voilà ma femme. Delphine, nous parlions de votre amie, Madame d'Agoult.
Oh, quand j'avais 18 ans, et que ma mère me faisait déclamer mes vers dans les salons, comme on montre un petit sage savant, j'ai vu Marie. Elle se nommait alors Mademoiselle de Flavigny. Nous avions le même âge. Elle possédait la fortune, un nom, des prétendants, tout ce que je n'avais pas. Elle a joué du piano et chanté. Et j'ai senti qu'elle était aussi malheureuse, aussi écrasée que moi. J'aurais voulu lui dire que je me sentais sa sœur. Et là, c'est ma terrible mère qui s'est avancée vers elle et lui a parlé en mon nom. Elle lui a dit « Delphine vous a comprise ». Nous n'avons pu que nous serrer la main. À présent qu'elle revient brisée et calomniée, je désire lui offrir mon salon pour qu'elle y règne.
Voilà Marie. Divine sirène, nous parlions de vous. Paris applaudit à votre retour.
Monsieur de Girardin, votre femme fut la première depuis mon retour à me tendre la main en m'invitant ici.
Nos salons sont honorés, madame, de vous recevoir.
Vous le savez, je me réinstalle, seule. L'appartement est rue Neuve des Mathurins, tout près de chez vous. Me feriez-vous la joie d'y venir dîner ?
Mon mari ne sort jamais le soir.
Je serais très heureux, madame, de me rendre à toute invitation venant de vous. Je travaille 18 heures sur 24, aussi j'évite les corvées, mais je trouve toujours du temps pour mes... disons mes joies.
Nous sommes au musée Carnavalet, dans une exposition sur l'île Saint-Louis, dans une salle consacrée au romantisme. Nous avons d'ailleurs devant nous le moulage de la main de Chopin. Voilà aussi la palette de Daumier, celui qui a réellement su caricaturer, c'est-à-dire rendre cette bourgeoisie du 19e siècle sur laquelle finalement Marie d'Agoult aussi avait un jugement assez sévère. Et nous voyons ici Alexandre Dumas, nous voyons également Théophile Gautier, et alors nous arrivons à la vie quotidienne, nous voyons école de natation de l'hôtel Lambert, bain froid pour dames, quai d'Anjou, île Saint-Louis, et nous voyons une superbe piscine avec sur le bord de merveilleuses dames entièrement vêtues de robes, de chemises. Marie d'Agoult, d'ailleurs, dans ses souvenirs, dans ses mémoires, décrit merveilleusement les bains de mer, la façon dont des baigneurs vigoureux portaient les dames en vêtements de toile jusqu'aux pieds, les portaient dans les vagues, les plongeaient dans les vagues, les ramassaient ensuite et les reportaient sur le sable. Alors, Maurice Agulon, nous revenons par ce biais à la vie quotidienne de Marie d'Agoult et à son installation, sa première installation à Paris, dans cet appartement de la rue Neuve des Mathurins, où elle avait fait mettre ses boiseries Renaissance et ses médaillons des grands hommes. Qu'est-ce que vous en pensez, cette idée de garnir son salon de tout un pourtour de médaillons de grands hommes faits par David d'Angers, c'est-à-dire un des meilleurs artistes de cette catégorie?
Eh bien, que c'est très 19e siècle aussi, et je ne crois pas qu'on forcerait trop les choses en disant que c'est très 19e siècle libéral. Parce que les gens qui aimaient les statues de grands hommes n'étaient pas seulement ceux qui étaient curieux d'histoire comme telle et de portraits ou de statues ou d'anecdotes pour mémoriser tel ou tel épisode et aider à reparcourir l'histoire. Il y avait très souvent dans l'idée des grands hommes l'idée de panthéon laïque. C'était plutôt du côté de la libre pensée, de ceux qui cherchaient à s'émanciper ou qui se considéraient comme émancipés des religions révélées, qu'il y avait l'idée que la véritable divinité à honorer, c'était l'humanité dans son progrès, dont un certain nombre de grands hommes, précisément, avaient été les héros et les repères. Et il serait tout à fait intéressant de savoir naturellement quelle était la liste de ce nouveau panthéon que David d'Angers a pu réaliser pour Marie d'Agoult. Mais il y a tout lieu de penser qu'il y avait plus des mules de Voltaire que de saints consacrés.
Le lendemain de la soirée chez les Girardins, Marie, en se réveillant dans sa chambre couleur d'oreille d'ours, reçoit une lettre. Le messager qui l'a apportée attend depuis 2 heures déjà.
Puis-je revenir ? Votre heure sera la mienne. Je vous baise les pieds, Émile de Girardin.
Il reviendra presque tous les jours, Émile. Et sa lutte, c'est de l'avoir en tête à tête. Mais c'est aussi le combat d'Alfred de Vigny qui crie « Une heure, quand vous voudrez, mais seul à seul. » De Sainte-Beuve, qui réclame « Mais cinq minutes !» Tous, ils aimeraient la voir à eux, lui dire leur amour, la voir sourire, l'entendre jouer du piano pour eux seuls, mais elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'ils soient tous là, c'est avoir un salon glorieux, un salon où on discute des idées du moment, où on parle politique et littérature et peinture. Par conséquent, les intérêts sont contradictoires. Émile de Girardin, lui, s'est vraiment enflammé comme un gamin. Il a pourtant juste quelques mois de moins que Marie. C'est un homme étrange, le Napoléon de la presse. Le roi Louis-Philippe, à son réveil, prend immédiatement connaissance de l'éditorial de la presse. C'est ce qui l'intéresse le plus. Émile suit ses passions. Et chaque fois qu'il est vraiment amoureux d'une femme, c'est une femme exceptionnelle. Son épouse, Delphine, c'était la poète prodige. Il en a fait une chroniqueuse illustre. Delphine a eu une fois une faiblesse pour un dandy qui d'ailleurs par la suite s'est suicidé. Elle l'a avoué aussitôt à Émile, dont il faut bien dire qu'il la trompait depuis longtemps, et lui a décrété que désormais ils vivraient comme frères et sœurs. Naturellement, Delphine aussitôt s'est découvert une passion incoercible pour son mari. Maintenant, le voilà amoureux fou de Marie d'Agoult.
Marie, il n'est encore que 6 heures. Je me perds dans ce que j'éprouve. Ce dont je suis sûr, c'est que je n'ai plus ma raison. Ce que je voudrais, c'est vous entendre me demander une chose impossible, car je ne trouve plus de mots qui me suffisent. Il n'y a que mon âme que je sens digne de vous. Je voudrais disparaître et qu'elle restât près de vous. Enfin, je me déteste et je m'égare. Marie, Marie, vous avez mis en moi un sentiment que vous seule pouvez comprendre. Il faut que je vous voie beaucoup aujourd'hui. J'ai un désordre de sentiments et de pensées qui ne cessera que près de vous.
Est-ce que ce n'est pas étrange, cette passion où l'amoureux fou parle de s'aimer d'âme à âme, que seule son âme est digne de l'aimer? On peut vraiment se demander pourquoi. Alors, il faut penser aussi qu'Émile, c'est un petit homme rond, bien en chair, myope, avec un monocle, avec des cheveux déjà clairsemés, et qu'il a dû regarder les portraits de Liszt, cette elfe, cette apparition dont toutes les femmes sont folles. Et il a peur, je crois. Il a peur de la comparaison.
Vous êtes, dites-vous, la femme la plus vraie et la moins confiante. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous savons seulement ce que nous avons été. On m'a toujours reproché de n'être pas confiant. Cela prouvait-il que je ne puisse pas l'être? Je le suis avec vous. C'est l'effet de votre nature sur la mienne.
En tête à tête, dans le salon bleu, Émile se raconte beaucoup. Il raconte ses souffrances de bâtard, seul dans un Paris hostile, et puis son grand amour pour Delphine, et puis la lutte pour devenir le mania de la presse, sa lutte pour casser en deux le prix des journaux, ce qu'il est parvenu à faire en faisant entrer la réclame, la publicité dans le quotidien, et puis le duel terrible, où, sans le vouloir bien sûr, il a tué un confrère, Armand Carrel. Il ne s'en est jamais remis. Toute sa vie, il versera une pension à sa veuve. Et puis, il raconte aussi qu'après son espèce de demi-rupture secrète avec Delphine, il a aimé une amie d'enfance, la fille de Madame Tallien d'ailleurs, une fille que Madame Tallien avait eue avec le grand financier de Napoléon, Ouvrard. Et cette Teresa lui a donné un fils. Et puis, il y a eu scandale, il y a eu rupture, il a envoyé Teresa à Londres, et le fils, il l'a gardé. Et il l'a amené à Delphine, qui lui a dit « Merci de me faire confiance ». Alors évidemment, Delphine, pour lui, c'est sacré. De sorte que, là aussi, Marie, dès le début, connaît les limites de cet amour fou. Jamais il ne sacrifiera ce foyer qui lui sert d'antre, dit-il, et de refuge. À cette époque, elle écrit encore à Liszt tous les jours. Mais lui, Liszt, d'ailleurs, continue à parler d'amour dans ses lettres.
Ne me retirez pas le seul bien que je puisse et veuille avoir dans le monde, votre amour.
Quelquefois, Liszt va très loin, très profond. Et aujourd'hui, ça nous étonnerait moins, parce que l'inconscient en a l'habitude. Mais en ce temps-là, il écrit des phrases assez surprenantes.
Pourquoi ce mot « je hais vos larmes » vous a-t-il fait si froid? Il me semble que dans toutes ces occasions, vous m'avez toujours reproché de ne pas être femme. Et moi, à mon tour, je vous en ai voulu mortellement de ne pas être homme.
Quelquefois, d'ailleurs, ils s'amusent par l'être tous les deux, Liszt et Marie. Ainsi, il fait manœuvrer Célimène. Il lui dit comment se comporter avec Vigny, avec Sainte-Beuve. Elle est quelquefois lasse de ce jeu. Ainsi, elle écrit
« Sainte-Beuve continue à venir tous les jours et à m'écrire des lettres amoureuses d'un ridicule incroyable. »
Mais quand elle parle de Girardin, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qui, visiblement, met Liszt en éveil. Et elle, aussitôt, réagit.
« Si cela vous cause l'ombre d'un déplaisir, je ne reverrai de ma vie Monsieur de Girardin. Ce n'est pas l'homme fort, égoïste et réfléchi que l'on suppose, c'est une nature faible, une âme plus aimante que passionnée. »
Et puis cette orgueilleuse assurance.
« Dans ces rapports-là, c'est moi qui domine. »
Ah oui, mais pour Liszt, interdire quelque chose, c'est prendre des engagements. Alors il l'assure qu'elle est libre. Elle répond
« Vous êtes le maître de mes pensées comme de ma vie. »
Ce sont de belles assurances. Elle le pense sûrement au moment où elle l'écrit, mais ça ne l'empêche pas de recevoir Girardin finalement en tête à tête tous les jours ou presque.
« Comprenez-moi, mon ami, je n'ai existé jusqu'à présent que par homme interposé. Les hommes me déclaraient leur amour, les femmes disaient « Un tel, mettons Alfred de Vigny, ou Eugène Sue, ou en ce moment même Sainte-Beuve, sont amoureux de Marie d'Agoult. Mais je voudrais être. Je voudrais que les gens écoutent mes idées, mes rêves, mes expériences, mes sentiments, au lieu de me regarder et d'admirer mes robes ou mes cheveux. Depuis 5 ans, je suis la comtesse française qui a tout abandonné pour Franz Liszt et qui a eu de lui 3 enfants. Depuis cet automne, je suis une femme dont Liszt s'est lassée. Mon cœur n'en peut plus. Il est mort. C'est mon esprit qui demeure avide de s'exprimer. Vous me parlez d'amour. On dit que je suis une séductrice. Je ne cherche pourtant pas à vous séduire. Je voudrais être votre amie.
Écoutez-moi. Je vais vous faire un aveu qui m'échappe pour la première et la dernière fois. Je ne suis ni timide ni rigide, mais il y a en moi un sentiment sans nom que je ne pourrais définir sans paraître ridicule. Séduire une femme m'a toujours paru la même chose que corrompre un homme.
Aucun homme n'avoue cela. On vous dit dominateur.
La société actuelle a-t-elle interverti les rôles de l'homme et de la femme? Ou suis-je une exception?
Vous êtes pourtant un maître de la politique. Les hommes les plus éminents quêtent votre opinion. Vous dominez Paris.
Oh, Marie, si les gens savaient. Le fond de mon caractère n'est pas la domination, c'est l'inconséquence. Parfois, je me passionne pour une cause, je me bats. Et un jour, je regarde l'enjeu de la bataille et j'éclate de rire. Ce n'était pas la peine.
Le livre de votre esprit est le plus passionnant des romans.
Bientôt, vous saurez par cœur toutes les pages de ce livre. Et il vous ennuiera. Alors que je n'aurai peut-être pas encore trouvé le premier feuillet du vôtre.
Vous êtes l'homme de tous les succès, et moi je suis la femme d'un seul échec, mais fondamental.
Des succès? J'ignore ce que ce mot veut dire. Je n'ai plus d'illusions, plus même de désirs. J'ai eu la passion du bien public, je l'ai perdue. Je ne suis plus bon qu'à mon triste métier de dénonciateur des fautes que commet le gouvernement. Cependant, jamais je ne voudrais jeter à terre un gouvernement sans avoir autre chose à être à la place. Mais où est-ce que je m'égare? Sachez seulement, Marie, que je vous aime. Et tâchez de ne pas m'en aimer moins.
J'aimerais savoir ce que vous pensez de moi.
De vous? Je pense que si vous étiez sur le trône, vous abdiqueriez pour le douloureux orgueil d'en descendre. Vous saurez un jour qu'aucun homme n'a la hauteur des sacrifices qu'on lui fait. Et plus ces sacrifices sont grands, plus l'homme paraît petit. Vous êtes un héroïsme sans héros.
Et dire que je ne parviens pas à aimer cet homme-là. Comme il a raison. Je suis un héroïsme sans héros.
Alors les hommes sont amoureux d'elle, mais ça ne l'intéresse plus vraiment. Parce que maintenant, elle a le désir violent de devenir ce qu'elle a toujours voulu être, un écrivain, c'est-à-dire ne plus exister par homme interposé comme égérie, mais exister par elle-même. Et pour cela, celle qui pourrait lui ouvrir les portes du monde, des lettres, ça serait tout naturellement George Sand. Elles ont été amies au point que quand on lit les premières lettres que Sand écrivait à Marie au début de la liaison avec Liszt, on se demande si ce n'est pas une amitié amoureuse. Enfin, c'est d'une exaltation extraordinaire. Et puis, ça dure un certain temps. Marie vient à Nohant après une maladie. Elle s'aime encore beaucoup. Et puis ça tourne court. On va demander à Georges Lubin, puisqu'il connaît le fond du cœur de Georges Sand, elle s'aimait encore à Nohant.
Oui, 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 jusqu'au moment où arrivent Bocage, Didier, voilà, etc. Un certain nombre d'autres personnes avec lesquelles Georges Sand avait des relations, et Marie aussi. Mais c'est là où les choses divergent.
Oui.
L'amitié, cette amitié enthousiaste de George Sand quand elle a reçu Marie dans la mansarde bleue, cette amitié subit déjà une atteinte. L'une comme l'autre le disait, il y a un mot terrible, terrible, j'estime, et qui est peut-être à la base de tout, de Marie Dagout, qui, le 15 juillet 37, à Nohant même, dit, au cours d'une conversation intime avec Didier, dit à Didier, Georges, je crois que Georges est prêt de tomber dans la galanterie. Et Georges Sand l'a su, je ne sais pas trop comment, puisqu'elle l'a, plus tard,
oh,
elle a dit,
dès
Nohant,
bien que
dès Nohant, j'ai
tout
vu.
Tout se répète toujours.
Et Marie Dagout l'a montré tout de même qu'elle était fielleuse.
Mais ce que Georges a fait à Marie, enfin nous allons y venir chronologiquement, ce que Georges a fait à Marie est ineffaçable, puisque Marie sera à jamais calomniée par le roman de Balzac, Béatrix, et que ça c'est un cadeau que Georges a fait à Balzac.
Oui, au cours de conversations qui ont eu lieu... postérieurement, c'est-à-dire en 1838, en février 38, quand Balzac est venu à Nohant. Elle lui a certainement parlé longuement de ce qu'elle pensait du couple et des raisons qu'elle avait senties, n'est-ce pas, de dissension déjà entre Liszt et Marie Dagout. C'est de là que Balzac est parti, c'est ça ce qui a fait la base du roman de Balzac. Mais qui a commencé?
Alors, ce qu'il y a eu, c'est que Marie, à tort ou à raison, je n'en sais rien, et elle le dira postérieurement, pense que, alors qu'elle était très fatiguée, se couchait de bonne heure, etc., que Liszt, qui avait des transcriptions à faire, qu'il faisait à longueur de nuit, que Georges, qui terminait un roman, restait en tête à tête, qu'il s'est peut-être passé quelque chose. Nous ne le saurons jamais,
jamais.
Et peu importe jamais. D'ailleurs.
Aucun document ne permet de conclure.
Absolument pas.
S'il n'y a que ce qu'a dit plus tard, beaucoup plus tard, Marie Dagout à Juliette Adam.
Oui, ce qui est sûr, c'est que Marie a été très jalouse.
Liszt était certainement très attiré par Georges. Liszt, qui est très désireux de s'instruire en tout, sentait que George Sand était supérieur à Marie sous ce rapport, n'est-ce pas?
Oui, c'est-à-dire qu'elle était créatrice.
Elle était créatrice, oui.
Donc, lui qui était un créateur, et ça, Marie le sentait très bien, et elle l'a dit par la suite, c'était deux créateurs.
Oui.
Alors,
et
ce qui s'est passé, c'est que Marie en a conçu une certaine jalousie, et c'est au bord du lac de Côme, en Italie, que les amants se sont repris, et c'est d'ailleurs là qu'a été conçue Cosima, la future Madame Wagner. Et alors, à cette époque-là, c'est assez curieux, Georges commence à se refroidir au sujet de Marie, et là vous donnez une lettre de décembre, vous dites le 26 avec un point d'interrogation, de décembre 1837, c'est-à-dire à l'intérieur de l'année même de la grande amitié, n'est-ce pas? Vous dites qu'elle avait été envoyée à Franz Liszt et Marie Dagout, cette lettre. Je ne sais pas si elle n'a pas été envoyée à Franz Liszt seule, car je lis ceci que vous publiez. Et puis, disons encore que la princesse, ça c'est Marie, la princesse Arabelle, m'a vu secouer ma paresse au temps où je la voyais splinatique et où je pouvais croire, c'était elle qui par ses gracieusetés me donnait cette présomption, que mon babil pouvait lui être bon à quelque chose, la distraire, oui, je puis dire la consoler et la fortifier. Pour cela, il ne me fallait ni grande sagesse ni bel exemple, car je n'aurais su où prendre l'un et l'autre, mais il suffisait de lui dire ce qu'elle était, de la faire connaître à elle-même, de lui montrer tous les trésors qu'elle renfermait en elle et qu'elle niait à elle-même. Je demande qu'on se rappelle ce jugement de décembre 1837 qui éclairera d'un autre jour le changement de Georges. Dans ce temps-là, je lui écrivais plus que je ne me sentirais appelée à lui écrire désormais. C'est pourquoi je crois qu'elle n'a envoyé la lettre qu'à Liszt. Car il me semble qu'elle est calme, heureuse et forte. Et pour parler comme mon ami Pierre Leroux, je dirais ma mission est remplie. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, vous savez bien
que Liszt lui demande d'envoyer ses lettres chez son éditeur parce qu'il a peur que ça fasse de la peine à Marie qu'elle s'adresse à lui sans s'adresser à elle. Vous vous rappelez ça ?
Je me souviens, oui, oui.
Alors là, il y a un net refroidissement.
Il y a un refroidissement, c'est certain, mais qui vient de ce que déjà elle a senti quelque chose brisé, certainement dans l'amitié que lui portait Marie.
Alors maintenant, je voudrais, si vous en êtes d'accord, cher Georges Lubin, que nous sautions quelques mois, presque deux années, et que nous en arrivions en juillet 1839. Là, ce que j'appellerais, moi, la mauvaise action, mais vous ne serez pas d'accord, de Georges est accomplie, c'est-à-dire qu'elle a raconté à Balzac ce dont il s'est servi dans Béatrix pour tracer Béatrix de Rochefide, qui reste pour les gens Marie d'Agoult.
Alors vous oubliez peut-être aussi que Georges Sand a fait un roman qui s'appelle Horace,
mais oui,
et dans lequel elle a encore mieux caricaturé peut-être plus directement.
Ouais.
Marie
d'Agoult. Ah oui. Et puis en plus, c'est pas un de ses meilleurs romans.
Non, il est intéressant tout de même.
Ah, il est intéressant pour nous.
En ce que il nous montre les luttes de 1832 par Paris, le cloître Saint-Méry, ainsi de suite.
Oui.
Là,
c'est
un
intérêt documentaire.
Oui, puis c'est le premier engagement véritable de Georges Sand de ce côté.
Et alors, dès juillet 1839. Elle savait, au fond, qu'elle avait fait quelque chose contre Marie d'Agoult, puisqu'elle écrit, c'est toujours une lettre publiée par vos soins, bien sûr, elle écrit à Balzac « Bonsoir, cher Domard, ne vous inquiétez pas de ma susceptibilité, flattée ou non flattée dans la cousine Germaine dont vous me parlez, c'est Camille Maupin, Félicité Destouches. Je suis trop habituée à faire des romans pour ne pas savoir qu'on ne fait jamais un portrait, comme elle a raison. » Qu'on ne peut ni ne veut copier un modèle vivant. Où serait l'art, grand Dieu, si l'on n'inventait pas, soit en beau, soit en laid, les trois quarts des personnages où le public bête et curieux veut reconnaître les originaux à lui connus? Alors là, bien sûr, elle met le bouclier, mais le bouclier est transparent, car elle ajoute « On me dit que vous avez noirci terriblement dans ce livre une blanche personne de ma connaissance et son co-associé à ce qu'il vous plaît d'appeler les galères. Elle aura trop d'esprit pour s'y reconnaître et je compte sur vous pour me disculper, moi Georges, pour me disculper si jamais il lui vient à la pensée de m'accuser de délation malveillante. » Bon, ben elle sait très bien ce qu'elle a fait, la chérie. Avouez. Cher Georges Lubin.
Oui, elle sait, c'est certain, c'est exact. Elle sait qu'elle a donné à Balzac des éléments pour faire ce roman, qui n'est pas des meilleurs de Balzac d'ailleurs, mais enfin qui...
Qui est très largement lu.
Qui est très connu.
Très connu, oui. C'est un des connus.
Oui.
Et alors, en novembre précédent, se place ce que vous devez appeler dans votre fort intérieur, mais vous pouvez protester, le forfait de Marie d'Agoult. Le manquement à l'amitié de Marie d'Agoult.
Oui.
Bon, alors, elle écrit à ce personnage, à mon avis pas très sympathique, qu'est Carlotta Marliani. Eh bien, on va juger sur pièce. Voici la lettre de Marie. Le voyage aux îles Baléares m'amuse, c'est le voyage Chopin-Sand. Je regrette qu'il n'ait pas eu lieu un an plus tôt. Quand Georges se faisait saigner, je lui disais toujours « À votre place, j'aimerais mieux Chopin. » Que de coups de lancette épargnés. Puis, elle n'eût pas écrit les lettres à Marcy. Puis, elle n'eût pas pris Bocage. Et c'eût été tant mieux selon quelques bonnes gens. L'établissement aux îles Baléares doit-il être de longue durée? À la façon dont je les connais l'un et l'autre, ils doivent se prendre en grippe au bout d'un mois de cohabitation. Ce sont deux natures antipodiques. Mais n'importe, c'est joli au possible, et vous ne sauriez croire combien je m'en réjouis pour tous deux. Alors, écoutez, c'est plutôt dans l'ordre de la
Rochefide perfide.
Alors, vous connaissez mieux que moi les correspondances de l'époque romantique, les lettres de Sainte-Beuve, les lettres de l'excellente Hortense Allard, et avouez que la rosserie était, comme de nos jours, tout à fait de rigueur.
Oui. Oui, mais alors là, tout de même, on sent chez Marie, n'est-ce pas, le désir de piquée. Et puis, il y a autre chose, c'est que elle... Est-ce que c'est dans la même lettre? Je ne me souviens plus. Mais elle parle aussi de, du talent de George Sand qui baisse, qui baisse, qui baisse.
Marie veut absolument obtenir un tête-à-tête avec George Sand. Après une longue correspondance assez difficile, elle y arrive. C'est le jour. Elle y va. C'est rue Pigalle. En ce temps-là, c'était le numéro 16. Aujourd'hui, c'est le numéro 20. Mais de toute manière, les petites maisons au fond de la cour, au fond du passage, n'existent plus. Marie arrive au pavillon. Elle voit un très beau salon boisé de sombre, une salle à manger boisée de sombre, le piano de Chopin qui est carré. Alors Marie se rappelle que Liszt avait en horreur les pianos carrés. Et il y a le portrait de Georges par Calametta, il y a des tableaux de Delacroix au mur. Au loin, on entend Chopin qui ne se montrera pas et qui joue sur un piano d'exercice quelque part. Et Georges, habillé de pantalon en turc, fume un calumet, elle est blottie sur un sofa. Elle est comme une image.
Soyez la bienvenue.
Dans la cour, j'ai croisé les enfants. Solange s'est épanouie. Maurice est encore très adolescent. Comme tous vos intérieurs, depuis Nohant jusqu'à la moindre mansarde, c'est ici plein de charme et de poésie.
Marie, vous m'avez écrit d'Italie avant de rentrer que nos relations avaient été pour vous choses sérieuses. Et une page plus loin, vous m'accusez d'être incapable d'un sentiment durable. Vous ajoutez qu'on vous avait prévenu. En ce cas...
Georges, je ne puis croire qu'une pareille amitié se défasse au moment même où je tombe dans une solitude morale affreuse.
Je sais que vous vous êtes imaginé des choses entre Lys et moi, non. Que vous le placez entre nous comme un objet disputé, c'est une curieuse idée qui vous est venue.
Elle est venue aussi à Balzac, qui nous connaît si peu. Elle lui est bien venue de quelque part, c'est-à-dire de quelqu'un. Mais laissons cela, ce serait trop pénible.
Toujours votre manière de suggérer. Toute femme amoureuse devient donc une voyante. J'avais failli lui écrire une pareille idée n'est venue qu'à Balzac, mais j'ai rayé cette phrase et voilà que c'est comme si elle l'avait lue. Marie, vous avez trop de clairvoyance. L'excès mène à l'isolement et à la solitude. Vous avez un besoin de grandeur.
Il faut donc vivre en aveugle pour être aimé.
Il faut en tout cas vivre avec confiance pour aimer. Vous portez en vous un besoin de grandeur contre lequel se révolte perpétuellement une petite inquiétude féminine. Vous voudriez avoir une conduite mâle et chevaleresque, mais vous ne pouvez renoncer à être une femme belle et spirituelle. Donc, vous écrasez les autres femmes.
Pour vous écraser, il faudrait peser d'un autre poids que moi, qui ne suis plus qu'un cœur brisé.
Oh, quand je joue les bons garçons, vous m'aimez, je le sais, mais quand je suis femme... Quand j'aime et suis aimée, vous ne trouvez pas assez de fiel pour me barbouiller. En vérité, vous me haïssez mortellement.
Moi ? Je vous hais ? Mais vous avez été, vous êtes peut-être encore mon modèle. Moi, dont le rêve est de m'exprimer par les mots, et c'est mon rêve depuis ma sortie du couvent, comment pourrais-je vous haïr ?
Peut-être précisément parce que mes écrits trouvent de l'écho. Vous avez tenté sincèrement de m'aimer. Parce que j'étais l'amie de Franz et que lui, vous l'aimiez.
Comment je l'aimais ? Mais je l'aime encore. C'est bien là mon malheur. Je ne sais pas me déprendre. Pas plus de lui en amour que de vous en amitié.
C'est parce que j'ai de graves reproches à vous faire que j'ai préféré une entrevue à une lettre. Je pense que l'encre et le papier ont été inventés pour poétiser la vie et non pour la disséquer. Mais là, face à face... Je dois vous dire que vos jugements sur moi tels que vous les formulez à d'autres...
Hier, j'ai été voir cette fausse amie, cette traîtresse qu'est la consulesse Carlotta Marliani. Elle m'a avoué qu'elle vous avait montré mes lettres, et même qu'elle les avait montrées à l'abbé de Lamennais. Or, notre directeur de conscience me déteste depuis que j'ai, d'après lui, enlevé Liszt à Dieu. Alors... J'imagine ce qu'il a dû vous dire.
Il pense que vous manquez de bonté. Et moi, je crois que vous avez deux orgueils. Un grand, qui vous fait viser aux grandes passions, aux grandes ambitions, à un petit, qui vous fait agir en sirène du noble faubourg. En réalité, vous me haïssez. Vous avez voulu persuader Franz, c'est peut-être vous-même que vous m'aimiez, mais...
Moi. Et notre confiance totale, quand je suis venue seule et malade, en convalescence à Nohant. Nos conversations interminables...
C'est que nous étions seuls, et qu'il n'y avait pas d'homme à séduire. Savez-vous ce que Franz pense de vous ? Que le besoin de dominer est inhérent à votre nature.
Liszt, vous le savez fort bien, est un homme à bonne fortune qui aurait voulu faire de moi une maîtresse flatteuse à montrer, près de laquelle il se reposerait entre deux orgies. J'ai l'âme trop sensible pour accepter d'être la maîtresse en titre d'un homme à bonne fortune. J'ai essayé, pour ne pas rompre avec le seul être que j'ai aimé. Je n'ai pas pu. Et me voilà seule, comme à 20 ans. Mais ayant traversé toutes les douleurs.
Vous savez bien que je respecte votre malheur et ne ferai rien pour l'accroître.
Adieu, Georges.
Mais non, Marie, à bientôt. Nous vivons trop dans le même monde pour ne pas constamment nous croiser.
Oh, sans doute, dans le monde. Mais ce n'est pas ce que j'espérais.
Alors, qu'allons-nous dire comme conclusion ? Eh bien, je reste tout de même sur mes positions, en ce sens qu'il y a des torts, évidents, de chaque côté. Quels sont les plus grands, je ne sais pas. Quels sont les premiers, difficiles. Mais l'examen de toutes les pièces connues, je sens, moi c'est par intuition, n'est-ce pas, que George Sand, tel que je la connais, ne pouvait pas pardonner une entorse, une déchirure à une amitié dans laquelle elle s'était lancée véritablement avec confiance. Que dit Marie Dagoud dans une lettre dernière ? Vous êtes une meilleure femme que moi.
Eh bien, ça prouve que c'est elle qui admet le mieux ses propres torts et la grandeur de l'autre. Oui, alors là, ça va en faveur de Marie.
Pas tout à fait, parce que la lettre à laquelle répond justement Marie à ce moment-là, c'est une lettre très belle de George Sand qui efface, qui gomme, si vous voulez. Tout le passif.
Elle gomme, mais et Horace et Béatrix restent.
Curieusement, c'est à George Sand pourtant que Marie Dagoud a dû d'entrer dans le journalisme. Un jour, George publie un livre qui n'est pas son meilleur, mais qui est intéressant du point de vue documentaire, Le Compagnon du Tour de France, où elle raconte l'histoire d'un compagnon, justement, agricole, perdiguier. Et Marie, qui trouve le livre exécrable, en fait la critique, sur la demande de Girardin d'ailleurs, et il la publie, cette critique, dans la presse, et c'est signé d'un pseudo-maison, comme nous dirions aujourd'hui, un inconnu. Alors évidemment, tout le monde demande, qu'est-ce que c'est que cet inconnu ? On cite des noms de rédacteurs de la presse, et Marie s'amuse comme une folle. Alors, après avoir fait ce premier pas masqué, un jour, elle raconte à Girardin ce qu'elle a vu au Salon des artistes français, et notamment elle lui parle d'un tableau d'un peintre alors très en vogue, Paul de la Roche, et elle le démolit en disant « c'est vraiment de la très mauvaise peinture, c'est pompeux », et elle trouve des mots qui amusent Girardin, qui dit « mais écrivez-moi donc tout cela ». Elle le fait, elle lui donne, et alors lui, c'est Marie qui nous le raconte dans ses souvenirs, lui dit « je vous enverrai les épreuves demain », elle dit qu'elle a très peur, ne sachant pas ce que c'est que des épreuves, ça je crois qu'elle exagère, elle en avait déjà vu, parce que c'est elle qui rédigeait les lettres signées Liszt, lettres d'un bachelier Es Musik. C'est Marie Dagoud qui les écrivait en réalité. Et ensuite, Girardin lui dit « mais il faut une signature ». Alors Marie lui explique qu'elle ne peut pas signer du nom de son mari ni de son nom de jeune fille, parce qu'elle ne voudrait pas que son mari ou son frère se sentent responsables si les journaux la critiquent. Et à l'époque, se sentir responsable, c'est provoquer quelqu'un en duel. Elle ne veut pas de ça. Donc, il lui faut un pseudonyme. Alors, elle cherche. Elle prend le prénom de son fils, Daniel. C'est curieux, elle ne pense pas un instant à le féminiser. Et ensuite, comme sa mère était allemande, elle cherche un nom allemand. Elle pense d'abord à Var, vrai. Et puis elle se dit, et si j'avais une étoile? Et elle signe Stern. Ainsi, Daniel Stern est né. La voilà donc devenue chroniqueur, écrivain, Daniel Stern. Elle nous dit elle-même comment elle se sentait par rapport à son œuvre. Elle raconte...
Deux petites nouvelles, Hervé et Julien, suivirent ces articles d'art. Monsieur de Girardin m'assurait toujours que le succès était grand. Je m'enhardissais peu à peu. J'écrivis tout un roman, Nélida. Pourquoi prenais-je cette forme du roman? Je n'avais guère les qualités du romancier, c'était une sottise de paraître vouloir suivre les traces de Madame Sand quand je n'avais rien de son génie. Ce qui fit l'intérêt et le succès, c'était des qualités de moraliste, de réflexion. L'originalité, la personnalité de la pensée, une manière de dire qui, sans recherche d'originalité, était bien mienne. Mais j'étais extrêmement modeste. Je ne croyais pas qu'une femme, que moi surtout, je puisse aborder directement les idées, prendre une forme. J'y fus gauche, mais sincère, hardie, avec simplicité. Toute la première partie du roman plut beaucoup. La conclusion, la religieuse qui laissait voir des tendances de rénovation sociale, un esprit de réforme, parut insupportable.
Elle a bien raison sur Nélida, Marie. C'était pas un très bon roman, et ses esquisses morales et tous ses essais, sans compter son histoire de la Révolution de 1848, sont bien meilleurs. Mais... on en a quand même parlé de ce roman. Il y a eu un grand article dans le journal des débats. Cependant, Sainte-Beuve, le fameux amoureux, eh bien, comme il n'avait pas, comme il disait, planté le clou d'or, comme Marie était restée inaccessible, il s'est vengé en se taisant. Pas un mot sur le roman, lui qui avait tant aimé la romancière. Il lui a juste fait savoir par une autre amie que George Sand trouvait ce roman très bon. C'est tout. Mais dans la vie de Liszt et de Marie aussi, de grands événements avaient lieu. Des événements invisibles, puisque Liszt continuait sa vie voyageuse, mais des bruits revenaient à Marie sur ses amours et, à certains moments, elle s'indignait.
Si je n'avais pas la conviction, mon cher Franz, que je ne suis et ne puis être dans votre vie qu'une douleur, et un déchirement important. Croyez bien que je ne prendrai pas le parti que je prends dans la plus profonde douleur de mon âme. Vous avez beaucoup de force, de jeunesse et de génie. Beaucoup de choses repousseront encore pour vous sur la tombe où va dormir notre amour et notre amitié. Si vous avez le désir de m'épargner un peu en cette dernière crise, qu'avec un peu de clair-vue et d'orgueil, je n'aurais pas tant différé, vous ne répondrez point avec colère et irritation aux quelques demandes que j'aurai à vous faire.
Je ne comprends guère votre incertitude. Vous avez désiré ne point me voir. Je vous ai obéi. La question des enfants n'est point chose à décider du jour au lendemain, d'autant moins qu'elle en renferme plusieurs autres sur lesquels nous n'étions que rarement d'accord autrefois. Quant à mes amis plus intimes, je ne leur ai point fait de mensonge. Je leur ai dit tout bonnement que vous désapprouviez et condamniez ma vie orgiaque, partant que vous m'aviez signifié qu'il valait mieux ne pas nous voir et qu'ainsi nous ne nous voyons plus.
Mais Dans la vie de Liszt aussi, s'était produit un événement dont, pendant longtemps, il avait essayé de taire la gravité dans ses lettres à Marie. Il avait rencontré la princesse Caroline de Sayn-Wittgenstein et on sait qu'il a été question de mariage entre d'annulation du mariage de la princesse en cour de Rome et que, juste au moment où peut-être ça aurait pu devenir possible, Liszt s'est réfugié dans les ordres. Il n'a d'ailleurs jamais été vraiment ordonné, mais enfin, c'était un refuge. N'importe, l'influence de la princesse sur lui était grande et indirectement, elle a frappé Marie d'un interdit terrible, c'est que Liszt, à un moment donné, a interdit à cette mère, qui légalement n'était rien pour les enfants, lui a interdit de les voir. Les enfants étaient à Paris et Marie n'avait pas le droit de les recevoir chez elle, ni d'aller chez leur gouvernante. C'est au point qu'une fois, Blandine, qui était une toute petite fille, a traîné sa sœur Cosima chez leur mère, juste pour l'avoir vue. Elle l'avoue dans une lettre au père, et Liszt répond avec une grande sévérité, il ne veut plus de ça. C'était terrible pour Marie. Il y a des lettres où elle écrit « Je lutte comme une lionne pour ravoir mes enfants, et je souffre horriblement. » Et tout ce qu'il y avait d'insatisfaisant, de déchirant dans sa vie privée, car sa fille légitime, Claire Dagout, qui était élevée au couvent, comme il convenait, portait à sa mère des sentiments en apparence parfaits, mais en réalité d'une assez grande froideur. Alors Marie s'est jetée tout entière dans la politique. Toute cette passion, elle l'a investie dans la lutte contre un régime qui réellement n'avait plus l'approbation de personne. Bien sûr, en 1846, Guizot, alors au pouvoir, avait, grâce au suffrage censitaire, fabriqué des élections convenables, mais il n'empêchait que dans tout le pays, il y avait des révoltes de la misère, des marches de la faim, et comme toute association était interdite, eh bien, on faisait des banquets. Et dans ces banquets, le fait de ne pas porter un toast au roi, c'est-à-dire de ne pas faire quelque chose, était déjà considéré comme séditieux. C'était la fameuse campagne des banquets dont est sorti finalement ce que nous connaissons comme les prémices de la Révolution de 1848. C'est certainement sous l'influence de Liszt que la comtesse Dagout était devenue républicaine, mais à présent elle l'était. Et elle l'était avec une grande fermeté de conviction et même avec passion. Et il y avait un homme qui incarnait son idéal de républicanisme, car c'était à la fois un écrivain, un poète qu'elle aimait, et un homme dont la présence et la prestance lui étaient agréables, c'était Lamartine. Sainte-Beuve, toujours méchant, disait « Lamartine siège chez la comtesse Dagout comme à la chambre, au plafond ». N'empêche que dans cette campagne des banquets, Lamartine a joué un rôle d'un incontestable prestige. Il avait 58 ans, 20 ans de gloire, et les ouvriers lui faisaient confiance, ainsi que les sociétés secrètes, et ainsi que les Saint-Simoniens, les fourriéristes, les libéraux, car il y avait 10 ans qu'il disait cette phrase simple, mais qui, au fond, résumait tout, la France s'ennuie. À un banquet, il a pris le gouvernement à partie.
Après avoir eu les révolutions de la liberté et les contre-révolutions de la gloire, vous aurez la révolution du mépris.
Marie Dagout, Daniel Stern plutôt, constate qu'il personnifie l'attente universelle. Alors, en février, l'agitation atteint son comble, même Girardin, qui est un homme modéré, qui certes changeait de gouvernement à soutenir, mais qui soutenait généralement le gouvernement. Eh bien, même lui avait inventé un assez curieux parti d'opposition qu'il intitulait les conservateurs progressistes. Ça, vraiment, il faut en avoir l'idée. Il expliquait qu'il faut conserver le progrès. Et du ministère Guizot, qu'il avait si souvent soutenu, il imprime en manchette dans la presse.
Qu'a-t-on fait depuis 7 ans ? Rien.
rien, rien.
Girardin fut d'ailleurs le seul à démissionner de l'Assemblée le 14 février. Les autres avaient dit qu'ils démissionneraient, ils n'en ont rien fait. Le 22 février, un cortège devait se rendre par les Champs-Élysées à un banquet de l'opposition, et puis la veille au soir, il y a eu un contre-ordre. Alors Lamartine s'est fâché. Et il a déclaré à Daniel Stern que même si tous les députés se récusaient...
J'irai seul au banquet, avec mon ombre derrière moi.
Le 23 février, dit Daniel Stern, la nuit fut muette. Le pouvoir crut qu'elle était calme. Le 24, il y avait un vent aigre qui fouettait la pluie. Et pourtant, les étudiants, les artisans, les ouvriers ont rempli les rues Saint-Martin, la rue Rambuteau, la rue Saint-Denis, tout autour de l'église Saint-Méry, enfin les lieux ordinaires des émeutes. Il y avait les gardes nationaux, ces citoyens soldats, cette sorte de police recrutée parmi les gens qu'on disait honorables. Ils étaient là, les soldats étaient là, mais personne n'avait d'ordre. Les gardes nationaux criaient « Vive la réforme !» La foule les acclamait, et pendant ce temps, aux Tuileries, Louis-Philippe riait. Vous appelez barricade, cabriolet de place renversé par deux polissons. Vous voyez qu'ils ne sortaient pas beaucoup dans la rue, parce que les rues se remplissaient effectivement de barricades, et que les gardes nationaux et la foule fraternisaient. Alors, Louis-Philippe, ne sachant plus quoi faire, répudie Guizot. Et il charge quelqu'un d'autre de former le gouvernement, mais personne ne pouvait plus réussir. À 9h30 du soir, rue Montmartre, on voit apparaître le premier drapeau rouge. On ne sait vraiment pas qui l'a brandi. Était-ce Blanqui qui, par hasard, n'était pas en prison? Était-ce Proudhon dont les partisans parcouraient les rues? On ne sait pas. Sous les bureaux des journaux, à la Réforme, au National, la foule s'agglutine et aussi boulevard des Capucines devant le ministère des Affaires étrangères. Et là, soudain, il y a eu un coup de feu. Et puis d'autres, sans sommation, sans ordre. Daniel Stern le décrit d'une façon poignante dans son histoire de la Révolution de 48. Combien de cadavres au bout de la nuit? On ne sait pas. 35, 50... Certains cadavres sont hissés sur un chariot et Daniel Stern nous montre un adolescent debout sur une carriole qui tendait vers la foule le corps ensanglanté d'une jeune morte en criant « Vengeance !» tandis que la foule répondait « Aux armes !» Daniel Stern avait pris parti pour ceux qu'on tue.
Les morts ont tué les vivants.
Je voudrais que Maurice Agulon, qui est un spécialiste incontesté de la Révolution de 1848, nous raconte comment elle s'est passée en province.
C'est très variable, naturellement, même d'une région à l'autre, et même à l'intérieur de chaque région. Dans la vie quotidienne, on peut penser que pour beaucoup de gens, il y a eu un changement des autorités qui s'est passé assez largement au-dessus de leur tête. Ce n'est que dans un petit nombre de régions qu'une, pour une raison quelconque, une participation des gens du peuple aux événements révolutionnaires a été l'occasion de perturbations dans leur vie quotidienne. Il y a eu dans certaines villes, comme à Paris, des mouvements révolutionnaires urbains. Il y a eu des mouvements révolutionnaires dans les campagnes. C'est beaucoup plus rare déjà. De toute façon, les mouvements révolutionnaires ont été brefs et l'effet de la révolution sur la vie quotidienne a été surtout, semble-t-il, celui de la grande crise économique qui l'a précédé et qui l'a d'ailleurs un peu contribué à l'expliquer. À moins que l'on ne considère comme un changement de la vie quotidienne le grand événement survenu en 1848 et que d'ailleurs Marie Dagou a chaudement approuvé, c'est-à-dire le suffrage universel. C'est très important et c'est surtout très important pour la suite, mais comme malgré tout on ne vote pas tous les jours, on ne peut pas mettre
cela exactement sous la même rubrique culturelle que les autres, ou anthropologique, que les autres choses dont nous avons parlé jusqu'à présent.
Et pourtant, ça donne lieu à des chansons. Alors, je pense que ça, ça prouve quand même que cette révolution importait aux gens.
Oui, elle leur importait parce que, évidemment, d'abord, le fait que le suffrage devienne universel était une façon de poser le principe de l'égalité entre tous les citoyens, même pauvres. Et puis, d'autre part, parce que on pensait que, à partir du moment où tous les pauvres voteraient, les intérêts des pauvres seraient représentés dans les organes législatifs et que, par conséquent, les maux de la société trouveraient des solutions par des réformes progressives. Et c'est un peu sur ce point qu'il y a eu par la suite des déceptions et que certains des pauvres, déçus par la première application du suffrage universel, ont retrouvé très vite, en juin 1848, à Paris, le chemin plus traditionnel de la révolte. Marie Dagou, elle, a fait, comme la plupart des républicains de son temps, l'option suffrage universel, c'est-à-dire qu'elle a été partisan de la révolution de février 1848 qui établissait la République et le suffrage universel, mais tandis qu'elle n'a pas approuvé la lutte ouvrière de juin, dans la mesure où cette lutte paraissait dirigée contre l'Assemblée issue de la nouvelle légitimité électorale. Mais enfin, en ceci, Marie Dagou était représentative du courant principal des Républicains de 1848, dont il est temps de rappeler qu'elle a été le témoin et l'un des meilleurs historiographes dans son histoire de la Révolution de 1848, qu'elle a signé de son nom d'homme de lettres, ou de femme de lettres, de Daniel Stern.
Oui, mais alors, Maurice Agulon, vous êtes un des rarissimes qui la cite vraiment et qui lui rend vraiment hommage, parce que je dois vous dire que dans l'énorme tas de livres sur la révolution de 1848, j'ai vu énormément de gens, surtout parmi ceux qui racontent les journées de 48, qui l'ont littéralement pillée, qui ont à peine réécrit ce qu'elle a, les témoignages qu'elle apporte, elle, dans son histoire de la révolution de 1848, sans même la citer, sinon quelquefois dans la bibliographie, tandis que vous, vous la citez parmi les grands témoins.
C'est-à-dire que les écrivains de cette époque ont, avec l'évolution du temps, changé de statut. Il y a eu une époque où les histoires contemporaines de 1848, comme celle de Daniel Stern ou celle de Louis Blanc ou celle de Garnier-Pagès, étaient considérées comme des histoires. Il n'y en avait pas d'autres. Ensuite, des dizaines d'années sont passées, des archives se sont ouvertes. Alors, des historiens professionnels ont écrit l'histoire à partir des textes d'archives, des sources primaires d'une élaboration complexe. Et les vieux historiens sont devenus de ces ouvrages qu'on appelle dans le monde de l'érudition des ouvrages à caractère de source. Et on ne cite plus maintenant Daniel Stern comme un historien de la Révolution de 1848, mais comme un témoin, comme une sorte de mémorialiste ou de chroniqueur. Mais c'est précisément ce nouveau statut, qui est sans doute son statut définitif, qui fait aujourd'hui son prix et son charme. Et je n'ai eu aucun mérite à la citer, puisque la règle du jeu de l'ouvrage auquel vous avez eu la gentillesse de faire allusion tout à l'heure, Les 48 arts, était précisément de raconter par les textes d'époque ce qui s'était passé.
Et cet historien témoin qu'est Daniel Stern a dû prendre un plaisir tout particulier à raconter la scène de l'abdication. Ça devait être fabuleux pour elle parce que le héros intéressant de la scène, c'est Émile de Girardin qui a quand même joué un grand rôle dans sa vie, et l'autre, que nous pourrions nommer le héros pathétique, le roi Louis-Philippe, eh bien, ça devait lui rappeler que la famille du comte d'Agoult refusait d'aller
à cette cour-là parce que Louis-Philippe n'était qu'un Orléans et que des gens comme les Dagou n'allaient pas chez les Orléans. Alors on imagine comment Danielle Stern, la républicaine avancée, la républicaine socialisante, a dû s'amuser à raconter la scène de l'abdication et ce qui a suivi.
Le roi est dans son cabinet entouré de sa famille. À ce moment, la porte du cabinet royal s'ouvre devant un homme très pâle, très ému, mais dont l'émotion ne décèle aucune peur.
Qu'y a-t-il, monsieur de Girardin ?
Il y a, sire, que l'on vous fait perdre un temps précieux. Si le parti le plus énergique n'est pas pris à l'instant même, dans une heure, il n'y aura plus en France ni roi ni royauté.
Que faut-il faire ?
Abdiquer, sire.
Mais on peut défendre les Tuileries.
Trop tard.
Bien. J'abdique.
Je vous en supplie.
En faveur de la duchesse d'Orléans ?
Non. Ah, si au moins Joinville était là.
Là, nous n'irons pas plus loin que Saint-Cloud.
Alors commence l'ivresse de la victoire. La foule envahit le palais. Ce château, d'où l'étiquette rigide d'une reine dévote avait banni toute joie, devient le théâtre d'une immense orgie. Mais ni le portrait de la reine, ni celui de Madame Adélaïde ne sont touchés. Les tapisseries de la reine, ses laines et ses soies, lui seront restituées intactes, ainsi que le prie-dieu où elle avait enfermé les linceuls de la princesse Marie et du duc d'Orléans.
C'est vrai, Danielle Stern n'a pas très bien compris la grande révolte de juin 48 parce qu'elle a eu peur, elle ne savait plus où on allait. Et cependant, elle a très bien compris que Lamartine n'était pas assez ferme et elle s'est détournée de lui après lui avoir présenté Proudhon, Cabet, c'est-à-dire les gens les plus avancés. Et même, je crois, Blanqui, elle s'est détournée de lui, mais elle cherchait à qui se raccrocher et elle ne le savait pas. Cependant, elle n'a jamais consenti à l'Empire. Elle ne s'est jamais laissée leurrer par le prince président, ni par Napoléon III. Mais il y a autre chose qui me paraît plus grave peut-être, étant donné la personne de Marie Dagou, Danielle Stern, c'est qu'elle n'a pas compris jusqu'au bout le féminisme de 1848, mais George Sand non plus. Toutes les deux, elles se sont arrêtées à un certain point, et par exemple, l'idée que les femmes devaient voter et être élues leur paraissait excessive. On avait demandé à George Sand de poser sa candidature symbolique, naturellement, puisque les femmes n'avaient pas le droit de vote, elle a refusé. Et Marie, dans son livre, parle bien des Vésuviennes, qui étaient des excessives, comme nous dirions aujourd'hui, un peu folkloriques, mais elle ne parle pas des disciples de Flora Tristan, Pauline Roland et Jeanne de Rouen, qui avaient fondé l'association des maîtres et maîtresses d'écoles publiques et qui ont été arrêtées, qui ont été condamnées, qui ont été déportées en Algérie, Pauline du moins. Et quand on l'a fait revenir, il était trop tard, sa santé était complètement ruinée et elle est morte peu après. Et Pauline était une femme qui avait complètement assumé le féminisme de Flora Tristan et les idées de Saint-Simon dans sa vie. Alors Marie Dagou s'est arrêtée à mi-chemin, comme George Sand. Pendant l'Empire, elle est restée républicaine. Elle est restée républicaine, recevant des républicains, recevant aussi quelques partisans de l'Empire libéral. Par exemple, parmi eux, parmi ces jeunes lions, ces jeunes loups, Émile Ollivier. Et on voyait Marie entourée de ses filles, qu'elle avait enfin reconquises, Claire Dagout, qui épousera le comte de Charnacé, qui était ravissante, Blandine List, qui n'était pas moins ravissante, avec Cosima, la future Madame Wagner, les rapports étaient plus compliqués. Mais enfin, elle venait quand même quelques fois, et les visiteurs étaient absolument charmés dans cette maison rose du bout des Champs-Élysées, de voir dans un cadre d'un raffinement très pensé, ces femmes de deux générations différentes mais également séduisantes qui étaient bien plus belles que les femmes que représentait Winterhalter par exemple sur ses tableaux. Et d'ailleurs il y a un musée à Paris, le musée Carnavalet, où nous trouvons des souvenirs très précis de la famille List et aussi du temps de George Sand par exemple. Monsieur Bernard de Montgolfier, vous qui êtes conservateur du musée Carnavalet, pouvez-vous nous parler des souvenirs de la famille List que possède votre musée ?
Nous avons en effet un excellent portrait du célèbre compositeur et pianiste peint par Lehmann, qui était d'origine allemande et élève d'Ingres. Nous avons ce portrait, qui est un portrait de très belle tenue, un peu austère, où l'on voit d'ailleurs Liszt figuré en costume ecclésiastique. C'est un portrait qui est presque en noir et blanc, très pur de lignes, qui rappelle que ce peintre, Henri Lehmann, a été l'élève d'Ingres, et que, comme Ingres, il s'est fait le champion d'un certain idéal classique qui était en opposition formelle avec le romantisme de Delacroix.
Alors, je vois que vous avez également un portrait de Blandine, la première fille de Marie Dagout et de Liszt, celle qui est née en 1835 en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce portrait ?
Oui, c'est un charmant portrait qui a été offert au musée en 1942 par Madame Danielle Olivier, qui était la belle-fille de Blandine Liszt. On a longtemps cru que ce portrait était de Lehmann comme le portrait de son père, le compositeur Liszt, mais on a en fin de compte découvert que ce portrait était d'un auteur beaucoup moins connu qui s'appelait Léon Belli. Mais il reste que c'est une peinture très vaporeuse et d'un réel agrément. Le musée Carnavalet possède une très importante collection de souvenirs de George Sand qui lui a été donnée par sa petite-fille, Madame Aurore Lautsand, il y a un certain nombre d'années.
Vous avez un très beau portrait que j'ai vu tout à l'heure en venant à votre bureau. De qui est-il ?
Il est de Charpentier, un peintre qui n'a pas une célébrité particulière, mais c'est vrai que c'est un bon portrait. Mais nous avons beaucoup de choses autour de ce portrait, concernant George Sand, ses amis et aussi ses ancêtres, et notamment l'illustre ancêtre, le maréchal de Saxe. N'oublions pas qu'elle en était l'arrière-petite-fille.
Et oui, l'arrière-petite-fille naturelle, comme on disait, naturelle, comme si certains enfants étaient artificiels.
Les enfants naturels, les trois enfants de Marie et de Liszt, étaient eux aussi ce qu'on appelle des enfants naturels. Que pouvaient-ils penser de leurs glorieux parents, ces trois enfants-là ? Le père est un dieu lointain, irascible, toujours absent, car pendant tout le temps où il n'avait pas permis à Marie de voir ses enfants à Paris, il ne les a pas non plus fait venir là où ils se trouvaient, Vienne, Budapest, Berlin. Les enfants étaient à Paris seuls. Ils admirent le père sans restriction, surtout la cadette, Cosima, qui est elle-même une très bonne musicienne, et Marie, quand elle voudra se marier, dira « Mais Seigneur, Cosima, elle pourrait devenir aussi glorieuse que Franz Liszt. » Et Cosima écrivait à sa sœur Blandine et à sa demi-sœur Claire qu'elle aimait beaucoup. « Mais moi, je n'ai pas du tout envie de devenir une virtuose. J'ai envie d'épouser Hans, c'est l'homme qu'elle aimait à ce moment-là, et d'avoir des enfants. » Donc, les rapports parents-enfants n'étaient pas des plus faciles, car la mère aussi leur semblait lointaine. Ils adoraient venir dans son salon, rencontrer Michelet, Renan, Mickiewicz, toutes ces personnes brillantes, des actrices, ils en parlaient. Et quand ils n'étaient pas à Paris, ils s'écrivaient les uns aux autres en disant « As-tu bien profité du salon de maman ?» Mais à d'autres moments, ils la jugeaient très sévèrement. Ils la surnommaient « l'auteur ». Et quelquefois même, ça c'est Daniel, le fils, la surnommait l'histrion, ce qui était assez terrible, d'autant plus que celui qui montait sur la scène, c'était pas Marie, c'était Franz Liszt. Blandine, elle aime sa mère et elle en est aimée, et c'est chez Marie qu'elle rencontre Émile Olivier, qu'elle aimera, qu'elle épousera à Florence. Un extraordinaire mariage aux bougies dans une église ouverte spécialement la nuit pour eux. Marie sera là, mais pas Franz Liszt. Et Cosima, je crois qu'elle n'aimait pas sa mère. Je crois que c'est clair, dans sa maturité en tout cas, elle ne l'aimait pas. Mais je crois que même jeune, elle était trop angoissée et trop déchirée pour l'aimer. Alors Cosima, un jour, décide d'épouser un disciple de son père, Hans von Bülow, parce que ce jour-là, il avait décidé de se suicider parce qu'il avait été sifflé en dirigeant une ouverture d'un opéra de Wagner. Wagner était son dieu, Liszt était son dieu, et Cosima a voulu, envers et contre tous, se marier avec lui, ce qu'elle a fait. Marie était absolument désespérée, elle a envoyé Claire de Charnassé pour lui parler raison, il n'y a rien eu à faire. Donc Cosima se marie avec Hans von Bülow, a des enfants avec lui, lui reproche constamment sa dévotion, non pas pour Liszt, elle avait la même, mais pour Wagner, jusqu'au moment où elle tombe, nous le savons, éperdument amoureuse de Wagner. Et pendant tout un temps, elle n'a pas voulu abandonner Hans von Bülow, qui avait des accès de mélancolie, de dépression terrible. Et puis, elle a fini par devenir Madame Richard Wagner, une femme totalement adorante, qui, dans son journal, ne parle que de son mari, de ses enfants, des amis de son mari, jamais de sa mère. Alors, les rapports de cette femme avec ses enfants ont été souvent dramatiques, d'autant plus qu'en 1859, Daniel, le fils dont elle avait pris le prénom pour son pseudonyme, est mort assez brusquement, et elle qui espérait qu'il serait un génie, on ne savait pas très bien si ça serait en lettres ou en droit, Elle l'a vu mourir, ou plutôt elle ne l'a pas vu mourir, il est mort en Allemagne, loin d'elle. Cosima s'est mariée loin d'elle. Et en 1862, des questions d'intérêt assez étranges l'ont séparée de Blandine, qui allait avoir un enfant, qui est allée à Saint-Tropez dans une propriété qu'Émile Olivier avait achetée, et elle est morte en mettant au monde le petit Daniel. Donc, il ne reste plus que Cosima. Et Cosima n'aime pas sa mère. Et c'est assez tragique pour Daniel Stern. Sa vieillesse est certainement quelque chose où elle ne se sauve que par la création, par la critique, par les livres, par la vie de l'esprit. La guerre de 1870, elle la passe loin de Paris. Et elle veut revoir Cosima, alors elle va voir les Wagner à Tribschen en 1871, donc, et elle s'aperçoit que sa fille la tient à distance. Elle passe 3 jours dans l'adoration du gendre, puis elle s'en va, et Cosima ne dit pas un mot de la visite de sa mère dans son journal. C'est Richard qui lui dit en allemand « Tu as une bonne mère ». Elle ne répond pas. Alors, cette vie si pleine, si tourmentée de Marie Dagou, nous pouvons aussi nous demander comment elle se passait dans le quotidien, parce que il y a quelque chose que nous avons très mal vu, c'est comment les gens vivaient leur vie de tous les jours. Et là, je voudrais une fois de plus me tourner vers Maurice Agulon, le spécialiste de cette époque, et lui demander, mais comment est-ce que les gens vivaient au sens le plus quotidien du terme? Comment est-ce qu'ils se transportaient? Je ne sais pas, comment est-ce qu'ils se lavaient? Comment est-ce qu'ils existaient de jour en jour?
Mon Dieu, je pense que c'était extrêmement variable du début de la période à l'autre et d'une extrémité de l'échelle sociale à l'autre, parce que la vie au temps de Marie Dagout, c'est quelque chose d'extrêmement divers. Pour prendre d'abord la variable dans le temps, si vous le voulez, cette jeune femme est née avant les chemins de fer et ensuite les a connus. Les voyages de Marie Dagout entre Paris, l'Allemagne, la Normandie se sont faits dans des voitures à chevaux. C'est les voyages en Italie de la fin de sa vie se sont faits en chemin de fer. C'est un changement considérable, c'est une banalité de répéter cela, mais enfin, sa vie quotidienne a chevauché cela. Et pour beaucoup d'autres aménagements de la vie, y compris ceux de l'équipement quotidien, tout le monde a été aussi à cette époque-là témoin de ces améliorations qui paraissaient incessantes, qui paraissaient sans inconvénients et sans contrepartie, et qui ont fait, je dis cela en passant, que beaucoup des hommes du 19e siècle ont cru au progrès avec une naturelle et une solidité dont nous avons perdu le souvenir. Vous parliez de salle de bain, bon, les baignoires existaient, etc., mais l'immense majorité de la population était au niveau du débarbouillage quotidien et des ablutions complètes beaucoup plus épisodiques et beaucoup plus difficiles, sans eau courante, sans d'où l'intérêt des bains publics. D'ailleurs, à cette époque-là, on essayait de pallier ce qui paraissait être des difficultés insurmontables du logement individuel par des types d'équipements collectifs qui ont aujourd'hui perdu leur raison d'être, comme ceux des bains-douches municipaux ou des bains publics commerciaux.
Oui, évidemment, Marie Dagout n'avait pas ce genre de soucis. Il faut même dire que de soucis matériels, elle n'en avait guère qu'à un très haut niveau. Et elle a toujours vécu dans un raffinement évident. Que dire de cette femme pour conclure? Marie Dagout, Daniel Stern. Je sais que beaucoup de gens sont réticents en disant « c'est quand même une femme du monde, elle a eu toutes les facilités ». Et je répondrai « mais peut-être de devenir Daniel Stern quand on est la comtesse d'Agout et qu'on a tout Paris à ses pieds, même après la passion du siècle qui est retombée et ce grand échec sentimental, peut-être a-t-on plus de mérite encore de devenir quelqu'un quand il vous serait si facile de vous laisser simplement porter par la vie. Bien sûr, Daniel Stern, Marie Dagout, ce n'est pas Flora Tristan. Ce n'est pas quelqu'un qui est en avant de son temps et qui porte en même temps dans sa vie quotidienne la pauvreté, la difficulté et presque la misère. Bien sûr que non. Seulement, Marie Dagout n'a jamais cédé aux facilités et aux pressions du milieu le plus rétrograde, le plus plein de préjugés, je dirais le plus ridicule, du Paris de son temps. Enfin, un milieu qui trouvait, par exemple, que le roi Louis-Philippe n'était pas assez bien pour qu'on aille à la cour. Et devenir une républicaine, même si on ne devient pas une socialiste tout à fait consciente et organisée. Lutter pour les femmes, même si on n'est pas la pionnière du féminisme futur, je trouve que c'est non seulement un grand mérite, mais une immense originalité. Et finalement, à relire aujourd'hui, à la fois Daniel Stern, Georges Sand, Flora Tristan, les écrits du temps, on trouve un accent commun et un accent qui montre qu'il y avait un grand vent de révolte et de détermination d'être qui a soufflé sur certaines femmes. Et j'admire Marie Dagou d'être devenue Daniel Stern dans ce grand souffle et de l'être restée. Quant à la femme, quant à Marie Dagou et à la passion du siècle, bien, je crois qu'elle l'a résumé très bien elle-même, ce qu'il en est résulté. Un jour où sa fille lui a amené Franz Liszt. Alors c'était dans le somptueux appartement de Marie Dagou. Les œuvres de Daniel Stern étaient rangées complètes dans la bibliothèque et est entré un monsieur en habit ecclésiastique avec une cape sur les épaules et des cheveux blancs qui lui tombaient dans le cou. Et alors Marie l'a regardé et a pensé ce qu'elle écrira le soir même.
Il est devenu labelliste et je suis devenue Daniel Stern. Et que de larmes il a fallu.
Une républicaine romantique, la comtesse d'Agou, par Dominique de Santi. Avec Martine Sarcey, Jean-Pierre Cassel, Francine Berger, Guy Moigne, Michel Rull, Michel Lituac, Monique Martial. Et la participation de Maurice Agulon, professeur à Paris 1, auteur de La République au village, Une ville ouvrière au temps du socialisme utopique, 1848 ou l'apprentissage de la République et les 48 arts. Georges Lubin, écrivain romancier, spécialiste de Georges Sand. Bernard de Montgolfier, conservateur du musée Carnavalet. Chef opérateur du son, Michel Ristich. Collaboration technique, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet.
Cette émission a été diffusée la première fois le 23 janvier 1981 sur France Culture.